Bonjour. Une fois de plus, nous nous retrouvons en confinement et une fois de plus, nous sommes obligés de passer à des cours audio. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Église, une sainte, catholique et apostolique que nous confessons dans le Credo de Nicée. Il y aura trois parties dans ce cours, ce qui fera trois enregistrements. Vous avez une petite feuille de doc avec la table des matières et quelques citations à télécharger par ailleurs sur le site. Nous ferons trois enregistrements successifs pour limiter la longueur de chacun d'eux. La première partie de ce cours s'appellera « Une confession de foi liturgique ». Il s'agit de situer le credo dans la liturgie puisque c'est là que nous le récitons. La deuxième partie s'attellera à analyser chacun de ces quatre qualificatifs, une, sainte, catholique et apostolique. Et la troisième partie se posera la question de la véritable Église. Nous commençons donc cette première partie en parlant de la confession de foi liturgique du Credo. Nous utilisons couramment, dans nos assemblées dominicales, deux versions de notre confession de foi. Le symbole des apôtres, où l'Église est évoquée dans une phrase avec le Saint-Esprit. « Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, etc. » Et le symbole dit de Nicée-Constantinople, plus long et plus complet, dans laquelle nous disons « Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique ». Ces quatre adjectifs, « une, sainte, catholique et apostolique », sont appelés par les théologiens les « notes », notées en latin, de l'Église. Nous avons vu dans le premier cours que la liturgie est une des premières ressources pour faire de la théologie, et c'est encore plus vrai de la théologie de l'Église. Le vieil adage dit « lex orandi, lex credendi ». Ce qu'on prie, c'est ce qu'on croit. Pour Augustin, la prière elle-même est la preuve la plus éclatante de la grâce. La liturgie est porteuse du mystère du salut. Nous le reverrons à nouveau dans le cours sur l'Eucharistie et dans celui intitulé « Prêtre, prophète et roi ». Notre profession de foi a lieu pendant la messe, juste après l'homélie, qui elle-même a lieu après l'écoute de la parole. Ce n'est pas un hasard. Cette position signifie que l'assemblée présente a reçu la parole pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une parole de vie, et qu'elle l'a fait sienne. Nous avons une référence très nette là-dessus à la première épître aux Thessaloniciens de Paul. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. En effet, notre annonce de l'Évangile chez vous n'a pas été seulement discours, mais puissance, action de l'Esprit Saint et merveilleux accomplissement. Ceci dit par Paul, c'est exactement ce que nous faisons en prononçant le credo. Nous considérons la parole comme puissance, action de l'Esprit Saint, merveilleux accomplissement. Dans le credo, c'est l'ensemble des chrétiens qui parlent pour confesser leur foi, c'est-à-dire pour reconnaître le don de Dieu qui les précède. Chacun d'entre nous dit « je » pour former un « nous ». La profession de foi se dit debout. C'est l'attitude d'hommes libres qui se savent sauver. Mais si nous sommes finalement assez facilement enclins à prononcer les mots reconnaissant que Dieu est créateur, que Jésus-Christ est né, est mort, a été ressuscité, que l'Esprit Saint
gouverne le monde, nous pouvons quand même nous poser des questions. Comment pouvons-nous affirmer, contre toute évidence, que l'Église est une, sainte, catholique et apostolique? Avant de répondre à cette question, revenons à la formulation du credo. Vous vous rappelez que nous l'appelons symbole de Nicée-Constantinople. Il a donc en fait été rédigé successivement pendant les deux premiers grands conciles œcuméniques, même si depuis il a été légèrement modifié. Un petit rappel sur ces conciles œcuméniques. Ils étaient convoqués par l'empereur, soucieux d'unifier son empire au moyen du christianisme. Celui-ci cherchait donc des définitions claires et universelles de la foi chrétienne. Pendant les siècles de clandestinité, l'Église s'était développée dans une très grande diversité à la fois de structures et d'organisations. Cependant, il semblerait que l'épiscopat se soit déjà mis largement en place et pensé comme la colonne vertébrale de l'Église. Cela ne se fera que s'affirmer avec la légalisation de l'Église au cœur de l'Empire. Pour les pères qui rédigent le credo, il y a deux contraintes. Affirmer l'unité de la foi et garder des distances avec la demande politique d'une structuration de l'Église. Mettre l'Église au cœur de la confession de foi, c'était insister sur le fait qu'elle fait intégralement partie du mystère du salut. Ce n'est pas une simple structure sociale qui peut servir de courroie de transmission d'une hiérarchie vers des fidèles obéissants. Revenons sur la structure grammaticale dans les deux versions du credo. Dans ces deux versions, l'Église est mentionnée dans le paragraphe sur l'Esprit Saint. Il n'y a pas un paragraphe indépendant pour l'Église. De plus, il faut faire attention à la grammaire. Prenons tout d'abord le symbole des apôtres. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints. L'Esprit Saint est une personne. On croit en une personne. L'Église, comme la communion des saints, n'est pas une personne. C'est pourquoi on croit à l'Église, à la communion des saints. Dans le symbole de Nicée-Constantinople, nous utilisons une traduction qui nous fait croire en l'Église. Il s'agit d'une grossière erreur de traduction. Si on revient au latin, la structure grammaticale de l'Église implique que l'Église est plutôt de l'ordre de l'objet que de la personne. Le latin nous dit « credo in unum Deum » « et in unum Dominum Iesum Christum » « et in unum in Spiritum Sanctum » « et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam » Il n'y a pas de « in » devant le « unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam ». L'Église n'est pas une personne. On est dans l'ordre de l'objet. C'est l'Église qui est, c'est l'Esprit qui est le créateur de l'Église. Celle-ci n'a pas d'existence autonome. Notre foi s'adresse au Saint-Esprit et c'est lui qui donne ses propres qualités à l'Église. Et c'est pour ça que ces qualités deviennent objet de foi. Les qualificatifs qui caractérisent l'Église sont des dons de la grâce et celle-ci tente d'accueillir. L'Église se reçoit d'un autre qu'elle-même. Dans le credo, l'Église, le peuple assemblé, tente de rendre compte de l'action surprenante de l'Esprit dans la vie de son peuple. En effet, il faut bien insister sur le fait que l'Église se reçoit de Dieu dans l'Esprit. Ce que nous faisons en prononçant ces paroles liturgiques, c'est faire apparaître quelque chose du mystère de l'Église, mystère qui fait partie de l'ensemble du mystère de Dieu. Cette Église que nous recherchons, que nous cherchons à atteindre dans nos pauvres réalisations humaines, elle est une sainte catholique et apostolique parce que créée par Dieu, voulue par Dieu, comblée de la grâce de Dieu. L'écart est criant avec ce que l'Église donne à voir d'elle-même. Il ne faut pas croire que lorsque les chrétiens confessent leur foi, ils confessent que l'Église a toutes ses qualités. Ces qualificatifs ne peuvent être compris que lorsqu'on comprend qu'on est dans l'ordre de la confession de foi et non dans la définition d'une institution humaine quelconque. En confessant l'Église, les chrétiens décrivent l'Église telle qu'elle se reçoit de Dieu lui-même, et non pas une Église construite de main d'homme, un peu bancale. À ses propres yeux, l'Église n'est pas définie par ce qu'elle donne à voir, mais par Dieu lui-même. Dans la confession de foi, l'Église déclare recevoir de Dieu Trinité son existence, et elle dit en même temps qui est Dieu et qui elle l'est elle-même aux yeux de Dieu. Fin de la première partie.